Bonjour à tous les auditeurs de Neptune FM et bienvenue dans votre émission Regard sur le passé. Cette émission du service patrimoine de la mairie de L'Île-Dieu vous permet de vous replonger dans l'histoire de l'île pour vous distraire dans cette période difficile que nous vivons actuellement. Moi c'est Pauline et je vous propose de voyager avec moi jusqu'au Moyen-Âge. En effet, le thème aujourd'hui, c'est la naissance du christianisme sur L'Île-Dieu et l'histoire de l'église de Saint-Sauveur. D'après la tradition, l'avènement du christianisme sur l'île-Dieu remonte au VIe siècle de notre ère. À cette époque-là, un moine, Saint-Martin de Vertou, était très actif dans tout le pays d'Herbauges. Il a eu une œuvre évangélisatrice assez importante. Alors vous vous demandez peut-être ce que c'est que le pays d'Herbauges. Eh bien c'est le nord de l'actuelle Vendée, et c'est ainsi qu'on appelait la région dont faisait partie l'île-Dieu au début du Moyen-Âge. On n'est pas bien sûr que Saint-Martin soit bienvenu à l'île-Dieu, mais il y a une pierre près de Saint-Sauveur où il serait venu prêcher et qui porte son nom. Par ailleurs, des chroniques monastiques nous parlent de moines irlandais, des disciples de Saint-Colomban, qui seraient venus à l'île-Dieu pour y fonder un monastère à cette époque-là aussi. Ce monastère, on l'appelle parfois dans les textes Saint-Sauveur d'Oya, parfois Saint-Hilaire. On ne sait pas s'il a porté successivement les deux noms ou s'il s'agit de deux fondations religieuses différentes. La période est trop éloignée pour qu'on puisse vraiment trancher. En tout cas, sous le nom de Saint-Hilaire, le monastère de l'île-Dieu a été assez important au 7e siècle et il a accueilli un personnage illustre. Il s'agit de Saint-Amand. Ce saint a été très actif dans le nord de la France et dans l'actuelle Belgique. Il a aussi fait partie de la cour du roi Dagobert. Aussi, des chroniques monastiques sont consacrées à sa vie et racontent comment il est arrivé au monastère de Saint-Hilaire. Il place le monastère au bord de la mer, ou tout au moins au bord d'un bras de mer. Les érudits locaux ont pensé dès le XIXe siècle qu'il pouvait s'agir du cours du moulin, puisqu'il semblerait qu'il s'agissait autrefois, donc au Moyen-Âge, d'un bras de mer. Et des champs près de ce cours du moulin portent des noms évocateurs, comme le champ du cloître, par exemple. Il y a aussi, bien entendu, à cet endroit-là, la grotte Saint-Amand. Elle se trouve pas très loin de la chapelle Notre-Dame de la Paix, une chapelle contemporaine, ou du verger patrimonial. Et près de cette grotte, on a retrouvé différents vestiges archéologiques qui semblent bien indiquer que le monastère se trouvait là. Parmi ces vestiges, un sarcophage en grès coquillé. Le type de sarcophage qu'au 7e et au 8e siècle était fréquemment utilisé pour enterrer les défunts. Et à l'époque, les cimetières se trouvaient toujours près d'une église. Et bien souvent, il s'agissait d'églises, de monastères. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup plus récemment, on a retrouvé un autre sarcophage similaire, mais alors pas du tout au même endroit. Il se trouve sous l'église de Saint-Sauveur, pris sous les fondations des murs de l'église médiévale au niveau de la nef, au niveau du mur nord de la nef, c'est-à-dire le mur de l'église qui se trouve près du marché. Alors c'est assez surprenant, même je dirais intriguant, parce que ça pourrait, je dis bien pourrait, indiquer qu'il y a eu, avant l'église actuelle, un bâtiment plus ancien, une église plus ancienne, et un cimetière autour. Les textes ne nous en disent rien. Le monastère Saint-Hilaire va disparaître au IXe siècle. C'est la période où les Vikings ravagent nos côtes et ils sont très actifs dans le pays d'Herbauges car ils utilisent l'île de Noirmoutier comme base pour leurs attaques dans la région. L'île-Dieu est attaquée à plusieurs reprises et le monastère Saint-Hilaire ne s'en est pas relevé. Pourtant, les choses vont s'apaiser progressivement au cours du siècle suivant. Les farouches combattants vikings se font chrétiens. Ils s'implantent sur les terres que leurs pères et leurs grands-pères venaient piller. Le suzerain du pays d'Herbauges, le comte de Poitou, se rapproche de ces hommes d'ascendance viking. Il leur propose d'entériner leurs droits sur les terres qu'ils occupent et de faire d'eux de véritables seigneurs locaux, à condition qu'ils lui prêtent serment d'allégeance et deviennent ses vassaux. C'est ainsi qu'est créée la seigneurie de Lagarnache, celle dont l'île-Dieu fera partie pendant tout le Moyen-Âge et qui porte le nom du village qui est son centre, un village du continent qui existe toujours et qui est entre Nantes et Chalon. Nous sommes à l'époque à l'aube de l'an 1000 et nombre d'églises et de monastères voient le jour. Pour racheter les péchés de leurs âmes, Les seigneurs leur font des dons substantiels afin de permettre à ces établissements religieux de perdurer. Gautier et Gosselin, les deux frères qui sont les premiers seigneurs de la Garnache, ne font pas exception à cette règle. Ils s'associent avec deux autres combattants, originaires de la région de Brême, Herbert et Béranger, et c'est à eux quatre qu'ils vont créer le monastère de Saint-Étienne sur l'île-Dieu. Herbert et Béranger se chargent de construire le bâtiment, tandis que Gautier et Gosselin se rapprochent des moines de Saint-Martin de Marmoutier près de Tours et leur proposent de s'établir sur l'île-Dieu. Pour permettre aux moines d'y vivre, ils les autorisent à prélever la dîme sur les productions de l'île-Dieu, c'est-à-dire à prendre un dixième des récoltes des paysans à titre d'impôt. Ils leur font aussi un don de vignobles sur le continent pour leur permettre de gagner de l'argent. Il y a donc un véritable intérêt économique pour les moines de Tours à venir s'implanter sur l'île-Dieu. En effet, si les monastères sont avant tout des lieux de prière, les moines ont à cœur de faire fructifier les terres sur lesquelles ils s'implantent et peuvent parfois se transformer en véritables chargés de développement du territoire. Il faut aussi bien comprendre qu'ils ne sont pas seuls, ces moines. Ils font partie d'un véritable réseau. Par exemple, les moines de Saint-Étienne à l'île-Dieu dépendent donc d'un monastère qui est sur le continent, près de Tours. Et d'autres monastères, un petit peu partout, vont dépendre également de Saint-Martin de Marmoutier. Cela permet de créer un réseau d'échanges. Bien entendu, les moines sont aussi, et surtout, à l'origine de fondations religieuses sur notre île. Ils auraient construit pas moins de 5 chapelles, dont celle du monastère, qui s'appelait Saint-Étienne, et une chapelle Sainte-Marie, qui est peut-être à l'origine de la chapelle de la Meule. Ils sont aussi à l'origine de la construction de l'église de Saint-Sauveur. L'implantation des moines et la construction des chapelles auraient eu lieu aux alentours de 1030 ou 1040. Mais après quelques décennies d'implantation des moines de Saint-Martin de Marmoutier à l'île-Dieu, il va y avoir un conflit avec les seigneurs de la Garnache. Et oui, il y a des intérêts économiques sur l'île-Dieu, donc il y a un contrat. Et il semblerait que les moines n'aient pas donné satisfaction aux seigneurs de la Garnache. Ces derniers vont alors donner le monastère de Saint-Étienne à un autre monastère du continent, Saint-Cyprien de Poitiers. Mais les moines de Saint-Martin de Marmoutier ne vont pas s'avouer vaincus aussi facilement. Ça va être le début d'un véritable feuilleton judiciaire qui va voir s'affronter les moines de Saint-Martin et ceux de Saint-Cyprien Poitiers devant les différentes instances religieuses de la région et ce pendant une quarantaine d'années. L'affaire sera finalement tranchée à Rome en 1119 par le pape Calixte II en personne qui attribuera définitivement le monastère Saint-Étienne de l'île-Dieu et ses dépendances à Saint-Cyprien de Poitiers. Il y a donc de fortes chances que l'église de Saint-Sauveur ait été construite par les moines originaires de Saint-Cyprien de Poitiers. Au XIIe siècle, l'église était la seule église paroissiale de l'île-Dieu et elle le restera jusqu'au XIXe, date à laquelle on a construit l'église Notre-Dame-du-Port. Mais il y a de fortes chances que l'église de Saint-Sauveur était aussi au Moyen-Âge une église priorale et que quelques moines vivaient juste à côté dans un petit prieuré qui aurait été aménagé sur l'actuel Port-Youth. D'ailleurs, le mot Port-Youth serait en fait la déformation du mot prieuré. Ces moines auraient donc entretenu et utilisé l'église pendant tout le Moyen-Âge. L'église de Saint-Sauveur est une église romane. La période romane, c'est un style architectural qui désigne les bâtiments construits en Europe au XIe et au XIIe siècle, et notamment des églises. Elle a une forme assez classique pour une église romane. Il s'agit d'une forme de croix latine avec une longue branche verticale de croix et une petite branche transversale. La longue branche verticale, c'est la nef, puis la croisée du transept, puis le cœur de l'église en allant de l'ouest à l'est. Le cœur de l'église, qui est construit dans une partie semi-circulaire qu'on appelle une abside, c'est la partie sacrée de l'église et elle est toujours tournée à l'est. Donc on rentre dans l'église par la porte qui est à l'entrée de la nef et on traverse en direction du sanctuaire qui est à l'autre bout de l'église à l'est. Ce qu'on appelle la croisée du transept, c'est l'endroit où la petite branche de la croix, qu'on appelle dans une église donc le transept, vient rencontrer la grande branche, donc c'est la croisée du transept. Le transept est divisé en deux parties, la partie nord et la partie sud. Comme les églises sont toujours tournées vers l'est, vers Jérusalem et le tombeau du Christ, eh bien, quand on rentre dans l'église par la nef et qu'on regarde le transept nord, on regarde à gauche et à droite, on a donc le transept sud. Dans l'église de Saint-Sauveur, comme dans beaucoup d'églises romanes, il y a dans le transept, dans les deux parties du transept, deux petites chapelles qui sont construites à l'intérieur d'absidioles, de petites absides, et qui sont elles aussi tournées vers l'est. Le transept, les absidioles et l'abside sont assez saillants, c'est une forme classique pour la période romane. On a également sur notre église un clocher carré qui a deux niveaux, le niveau le plus élevé et le plus décoré pour appeler le regard du fidèle vers le ciel. Et il repose sur une coupole en pendentif qui se trouve au niveau de la croisée du transept à l'intérieur de l'église. Toutes ces formes-là sont assez classiques pour des églises romanes du XIIe siècle. Mais dans la croisée du transept, on a des arcs brisés et ces arcs-là sont plutôt associés normalement à la période gothique. Donc un arc brisé, au lieu d'être totalement arrondi, il est un petit peu pointu en haut. Et les arcs qui sont totalement arrondis, on appelle ça des arcs plein cintre. Et normalement, à l'époque romane, on utilise plutôt les arcs plein cintre. En fait, au XIIe siècle, on arrive à la fin de la période romane. Et on va avoir dans l'ouest de la France, notamment dans la région de Poitiers, et n'oublions pas que les moines qui ont probablement fait construire l'église de l'Île-Dieu seraient originaires de la région de Poitiers. Et donc on va avoir un certain nombre d'églises dans lesquelles on va faire des expérimentations architecturales en utilisant les arcs brisés à la place des arcs plein cintre. Et on va s'apercevoir que c'est intéressant puisque ça va permettre de faire des églises plus hautes. En effet, avec l'arc brisé, le poids de la voûte et le poids de la charpente va se répartir différemment et permettre d'agrandir l'église sans prendre le risque que les murs ne s'effondrent. Ces églises-là, on les appelle les églises de style plantagenêt, puisqu'elles se trouvaient toutes dans l'ouest de la France, dans une région qui était à l'époque dominée par la famille Plantagenêt. C'était la famille des comtes de Poitou, mais aussi duc d'Aquitaine et roi d'Angleterre. Richard Cœur de Lion fait partie de cette famille. Au XVe siècle, l'église sera surmontée d'une vaste flèche pointue, qui est visible de très très loin, puisque l'église est elle-même construite sur une hauteur. Et avec cet ajout en haut de l'église, l'église Saint-Sauveur de l'Île-Dieu pourra être visible de la mer. Et c'est bien sûr le but qui est recherché, puisque cette nouvelle flèche sur le clocher est un amer qui doit aider les navigateurs à savoir où ils se trouvent lorsqu'ils naviguent autour de l'Île-Dieu. Et il se trouve qu'à l'époque, notre île est sur une route commerciale assez fréquentée, et que de nombreux bateaux d'ailleurs s'arrêtent sur l'Île-Dieu pour y prendre de l'eau et de la nourriture. C'est donc indispensable de permettre aux marins de se repérer dans la région. Au XVIe siècle, on va devoir changer un petit peu le plan de l'église. Il n'y a à ce moment-là plus de moines à l'Île-Dieu. Les moines de Saint-Étienne ont été attaqués par des protestants de la Chaume et ont décidé de quitter l'île suite à cette attaque. L'église sera donc, à partir de ce moment-là, beaucoup moins bien entretenue. La nef romane a besoin de gros travaux de restauration et on n'a pas les moyens de le faire. Donc on va rajouter comme une deuxième nef ou une sorte de bas-côté au nord de l'église, donc du côté où désormais il y a le marché, pour que les fidèles puissent aller dans cette nouvelle partie en meilleur état pour écouter les offices. Et la nef romane va continuer à se dégrader comme ça pendant plusieurs siècles. Au XVIIIe siècle, la flèche était toute tordue, on va la remplacer, et comme elle est toujours aussi indispensable, elle sera financée par les ports de commerce de Nantes, de La Rochelle et de Bordeaux, avec l'accord du roi de France. On va faire d'ailleurs une flèche encore plus haute, plus trapue, plus massive, donc plus résistante, et on va la surmonter d'un clocheton vitré, de façon à ce qu'on puisse surveiller ce qui se passait autour de l'Île-Dieu, et notamment la présence de corsaires anglais. À l'époque de la Révolution, donc dans les décennies qui vont suivre, les nefs, donc la nef romane et l'ajout du XVIe siècle, les nefs donc de l'église sont toutes les deux dans un très 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 mauvais état et les événements de la Révolution vont achever de complètement les ruiner. En effet, en 1795, le comte d'Artois et les soldats anglais, qui sont quand même 5000, plus 1000 émigrés français débarquent à l'île-Dieu. Ils ont besoin de bois, ils prennent une partie de la charpente de l'église. Et rebelote, quelques années plus tard, les soldats de Napoléon Ier ont besoin à nouveau de bois, il n'y a toujours pas d'arbres à l'île-Dieu pour faire des constructions. Ils vont prendre ce qui reste de la charpente de l'église pour construire la charpente de la manutention militaire, ce qu'on appelle aujourd'hui la missionnaire. Donc au milieu du XIXe siècle, l'évêché de Luçon va décider de restaurer l'église de Saint-Sauveur et de reconstruire complètement la nef et le transept nord qui étaient complètement ruinés. Il n'y avait plus grand-chose à faire pour les sauver. Cependant, à des fins d'économie, on va récupérer autant de pierres que possible dans les parties ruinées de l'église. De sorte qu'aujourd'hui, on a une nef et un transept du XIXe, alors que le transept sud, la croisée du transept et le chœur datent, eux, du XIIe siècle. Alors, lors de la construction de la nef, on va aussi, toujours à des fins d'économie, utiliser des mâts de bateau pour faire la charpente. C'est quelque chose qu'on peut voir dans différents bâtiments sur l'île-Dieu au XIXe et au début du XXe siècle, toujours dû à l'absence d'arbres pour pouvoir faire des charpentes. D'années plus tard, en 1953, et je pense que certains et certaines d'entre vous ont dû vivre cet événement en direct, on est en novembre, il y a un terrible orage qui éclate sur l'île-Dieu et l'église est frappée par la foudre. Un incendie se déclenche dans la flèche qui va complètement disparaître, elle va s'effondrer sur le transept nord et il faudra, suite à cet événement, refaire une partie des toitures de l'église et au niveau de la flèche, on décidera de ne pas la reconstruire puisqu'elle n'était plus aussi utile qu'auparavant pour les navigateurs. On refera donc un toit plat, sans doute comme celui que les moines avaient conçu tout à l'origine, au XIIe siècle, lorsque l'église a été construite. On va également, à cette époque-là, changer tous les vitraux, et les vitraux modernes qu'il y a aujourd'hui dans l'église de Saint-Sauveur ont été réalisés par un atelier de Chartres qui s'appelle Gabriel Loire. Mais au XXIe siècle, l'église avait à nouveau souffert, notamment peut-être d'un manque d'entretien. Il y avait besoin d'intervenir à nouveau sur la couverture de l'église et les enduits avaient complètement disparu, de sorte qu'il y avait des infiltrations d'eau un petit peu partout au niveau des toitures, mais aussi au niveau des murs. Car l'église n'est pas conçue pour être en pierre apparente, il faut qu'elle soit recouverte d'un enduit de chaux protecteur pour la prémunir des intempéries. Les travaux vont être financés par des subventions, mais aussi grâce à la générosité du public qui va répondre à une souscription et également participer à une vente aux enchères. Ils vont durer 2 ans, entre 2012 et 2014, et ils vont permettre non seulement de restaurer les charpentes et les enduits et les couvertures qui en avaient bien besoin, mais l'événement un petit peu imprévu de ces restaurations, c'est qu'ils vont permettre de mettre au jour des fresques, ou plus exactement des peintures murales, dont une fresque, dans le transept sud de l'église. Ces peintures murales vont être restaurées en 2017. Voilà pour l'histoire de l'église de Saint-Sauveur. Il y a encore évidemment fort à dire, notamment sur les peintures murales, mais aussi sur des décors sculptés, ou des points d'architecture de l'église. Malheureusement, sans l'avoir sous les yeux, c'est pas très intéressant. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous après le confinement dans l'église de Saint-Sauveur, où des panneaux et des documents mis à disposition par monsieur le curé vous permettront d'en savoir plus sur l'histoire de l'église. Et si vous avez vraiment été passionné, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'Office du Tourisme. Nous organisons une visite guidée de l'église de Saint-Sauveur qui porte tout particulièrement sur les fresques. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et à vous donner rendez-vous prochainement pour l'histoire du vieux château.